Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1957, Le Château de ma mère constitue le deuxième volet des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, après la gloire de mon père. Ce récit autobiographique reconstruit, avec le recul de l'âge adulte, les années où le jeune Marcel partage entre Marseille, la Bastide Neuve et les collines du Garlaban. Il associe scènes familiales, découvertes de la nature, épisodes comiques et émotions plus graves. Le livre suit notamment l'amitié entre Marcel et Lily Desbellon, garçon des collines dont le savoir pratique complète la curiosité du fils instituteur. Une autre ligne narrative naît du canal de Marseille, dont un raccourci permet à la famille de gagner sa maison de vacances en traversant plusieurs propriétés. Ce passage clandestin mène à la confrontation qui donne son sens au titre. Au-delà de la chronique provençale, Pagnol examine la fragilité du bonheur enfantin et le travail de la mémoire. La gaieté du récit est ainsi progressivement traversée par la conscience des séparations et des disparitions. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une autobiographie où le souvenir organise le récit, Le Château de ma mère ne se réduit pas à un relevé fidèle des faits de jeunesse. Pagnol écrit plusieurs décennies après les événements et compose ses souvenirs comme une œuvre littéraire avec des scènes structurées, des portraits marqués et des enchaînements qui donnent une cohérence dramatique au passé. Le narrateur adulte conserve le regard enthousiaste de l'enfant tout en laissant percevoir ce que cet enfant ignore encore. Cette double perspective est essentielle. Elle permet de rire des ambitions, des inquiétudes ou des maladresses familiales sans les rabaisser, puis de mesurer rétrospectivement la valeur de moments ordinaires. Les trajets vers la Bastide Neuve, les vacances et les jeux dans les collines acquièrent ainsi une intensité que les personnages ne peuvent pas encore nommer. Le livre privilégie une mémoire concrète, attaché au chemin, aux odeurs, aux objets et aux habitudes. Mais ces détails ne servent pas seulement à créer une couleur locale. Ils constituent les repères par lesquels le narrateur retrouve un monde disparu. La reconstruction autobiographique transforme donc l'expérience privée en méditation accessible sur le temps. Elle explique aussi les variations de ton du livre, capable de passer de la comédie familiale à une gravité sobre. Pagnol ne prétend pas produire un document neutre sur son enfance. Il montre comment le récit, l'affection et le recul donnent aux souvenirs leur forme durable. Deuxièmement, Lily Desbellon est une amitié fondée sur des savoirs partagés. La relation entre Marcel et Lily Desbellon élargit le cadre familial établi dans le premier volume. Lily est un enfant des collines, familiarisé avec les sentiers, les pièges, les saisons, les animaux et les usages de ce territoire. Marcel, venu de la ville et de l'école, possède d'autres ressources, notamment le goût des mots et de l'apprentissage. Leur amitié ne repose donc pas sur une simple ressemblance sociale ou sur une idéalisation abstraite de l'enfance. Elle se construit par l'échange de compétences et par la reconnaissance mutuelle de deux manières de connaître le monde. Lily apprend à Marcel à observer la nature avec précision, à interpréter ses traces et à respecter certaines règles implicites du milieu rural. Marcel découvre ainsi que le savoir scolaire ne suffit pas à comprendre le réel. En retour, la présence de Marcel rappelle que la curiosité intellectuelle peut circuler hors de la classe. Pagnol évite largement de faire de Lily un simple décor pittoresque. Le jeune paysan devient un ami qui modifie durablement la perception du narrateur. La rentrée scolaire qui les sépare rend visible la contrainte des trajectoires sociales et géographiques. Le souvenir de Lily prend enfin une force particulière dans les pages rétrospectives consacrées à sa mort pendant la Grande Guerre. L'amitié enfantine cesse alors d'être seulement heureuse et devient une mesure du temps perdu. Troisièmement, les collines provençales comme lieu d'apprentissage concret, dans ce livre, le paysage provençal n'est pas un arrière-plan décoratif. Les collines autour de la Bastide Neuve forment un espace d'apprentissage où Marcel éprouve son autonomie, son imagination et ses limites. Le relief, la chaleur, les sentiers, la végétation et la faune imposent une attention pratique. Pour se déplacer, jouer ou chasser, les enfants doivent observer, mémoriser et anticiper. Cette présence matérielle de la nature distingue le récit des évocations nostalgiques qui réduiraient la Provence à une image immobile et idéale. Les collines sont belles, mais elles sont aussi exigeantes, vastes pour les enfants et parfois inquiétantes. Elles offrent un territoire à explorer hors de la surveillance constante des adultes, tout en rappelant que la liberté a ses règles et ses dangers. Pagnol met ainsi en contraste la ville, l'école et les vacances rurales sans opposer mécaniquement culture et nature. Le jeune Marcel apporte aux collines ses rêves, ses lectures et son désir de comprendre. Lily lui apporte une expérience locale patiente et précise. De leur rencontre naît une connaissance vivante du lieu. La nature devient également un instrument de mémoire. Les chemins et les points de vue survivent dans la conscience de l'écrivain parce qu'ils sont liés à des personnes et à des instants irremplaçables. Le paysage porte donc simultanément le plaisir de vivre et la trace des absents. Quatrièmement, le raccourci du canal entre avantage familial et transgression sociale. Le canal de Marseille fournit au livre une intrigue précise et révèle les tensions cachées derrière un geste apparemment pratique. Pour rejoindre plus facilement la Bastide Neuve lors de courts séjours, la famille Pagnol bénéficie de la clé confiée par Bouzigue, piqueur du canal et ancien élève de Joseph. Le chemin longe l'ouvrage et traverse plusieurs propriétés privées. Il abrège une marche pénible, surtout pour Augustine chargée des affaires de la famille. Mais son usage dépend d'une autorisation fragile et d'une frontière que les propriétaires peuvent contester. Le raccourci met donc en jeu davantage que le confort. Il confronte une famille modeste, respectueuse de l'école et de l'ordre social, à la réalité des privilèges de propriété. Joseph hésite précisément parce qu'il mesure le risque moral et professionnel. Instituteur, il doit préserver une réputation qui peut être mise en péril par une accusation de passage illégitime. La scène du gardien transforme cette inquiétude en humiliation possible. La peur de perdre sa place ou son honneur contraste avec la légèreté des escapades enfantines. Pagnol tire de cette situation une comédie de caractère sans effacer sa portée sociale. Bouzigue, grâce à sa connaissance du terrain et des rouages locaux, intervient comme médiateur. L'épisode montre que les adultes ne sont pas seulement les figures protectrices vues par les enfants. Ils sont aussi soumis aux règles administratives, aux rapports de classe et à la vulnérabilité quotidienne. En dernier lieu, le château de la peur et le basculement final vers le deuil, le titre désigne le château qui effraie Augustine lors du passage de la famille près des propriétés bordant le canal. Pour elle, cette bâtisse et son gardien incarnent le danger associé au raccourci. Pour Marcel adulte, le lieu devient un nœud de mémoire, car il relie une frayeur maternelle à son propre retour en Provence. Bien des années plus tard, devenu cinéaste, Pagnol acquiert sans le visiter le château de la Buzine avant de reconnaître le lieu redouté par sa mère. Cette coïncidence, présentée comme un retournement autobiographique, ne vaut pas seulement pour son effet romanesque. Elle matérialise le pouvoir du passé à réapparaître au sein même des projets de la vie adulte. Toutefois, la fin du livre dépasse ce retour spectaculaire. Elle change nettement de registre en évoquant les morts d'Augustine, de Lily et de Paul. Le récit joyeux des vacances se trouve alors relu à la lumière de pertes irréversibles. Pagnol ne développe pas une théorie du deuil. Il obtient une émotion plus forte par la sobriété du contraste entre les scènes pleines de mouvements et la brièveté des annonces funèbres. Le lecteur comprend que la précision des souvenirs répond à une nécessité affective. Écrire les chemins, les voix et les visages permet de leur donner une présence littéraire sans annuler leur absence. Cette conclusion confère au livre une profondeur singulière dans l'ensemble des souvenirs d'enfance. En conclusion, Le château de ma mère conviendra particulièrement aux lecteurs de récits autobiographiques, de littérature française du XXe siècle et de romans d'apprentissage. Il peut aussi intéresser ceux qui connaissent Pagnol par ses films ou par ses pièces et souhaitent découvrir une écriture plus intime. Sa lecture offre un bénéfice concret de compréhension littéraire, car elle montre comment un auteur peut transformer des souvenirs personnels en composition narrative, en évitant à la fois la confession brute et la nostalgie uniforme. Elle éclaire également une Provence vécue de l'intérieur, faite de trajets difficiles, de relations de voisinage, de paysages précis et de différences sociales, plutôt que réduite à un décor touristique. Par rapport à beaucoup de récits d'enfance, le livre se distingue par son alliance très maîtrisée de verve comique et de mélancolie. Les aventures de Marcel et Lily. Les inquiétudes de Joseph et la fatigue de Gozitine gardent une vivacité immédiate, tandis que le narrateur adulte sait que cet univers est condamné à disparaître. Le motif du canal et du château donne en outre une véritable architecture au récit, au lieu d'une succession de souvenirs isolés. La force de Pagnol réside enfin dans la simplicité apparente de son style, qui rend lisibles les gestes, les dialogues et les émotions sans les surcharger. Ce second volet se lit idéalement après La gloire de mon père, mais conserve une unité propre grâce à la place centrale de l'amitié, du passage vers les collines et de la mémoire maternelle. Si vous souhaitez soutenir Pagnol M, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.